Alors, je suis très heureux d'être là. Hein. De toute façon, vous le savez, hein, je partage pratiquement tout ce qui a été dit. C'est Noël, c'est la période de Noël. Et j'avais idée de prêcher sur un thème de Noël, sur ce thème de Noël, mais je me suis dit, le programme de Noël, c'est dimanche prochain, Dieu voulant. Alors, je vais laisser toute la liberté à celui qui apportera le message. Alors, donc, ce matin, je ne prêcherai pas sur Noël. Mais j'ai choisi un autre thème. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous voulons t'être reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore, Seigneur. Nous voulons être fidèles, Seigneur, parce que toi, tu demeures toujours fidèle. Tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous ne sommes pas orphelins. Même lorsque tu es monté vers ton Père, tu nous as envoyé le Consolateur et nous te remercions pour cela parce que grâce à lui, nous pouvons être éclairés au nom de Jésus. Amen. Deux des versets les plus connus de la Bible se trouvent dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. Ne cherchez pas, je vous le lis. Car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ces deux versets, frères et sœurs, résument à eux seuls l'essentiel du message biblique, le cœur de l'évangile. Tous les êtres humains sont coupés de Dieu pour toujours à cause de leur péché. Mais Dieu, dans sa grâce, déclare juste gratuitement au moyen de l'œuvre du salut accomplie en Jésus, celles et ceux qui mettent leur foi en lui. La question qui se pose et qui s'impose, je dirais, pour nous devant cet immense amour de Dieu est celle-ci. Comment répondre à tant d'amour si Dieu m'a sauvé? Comment vivre en réponse à cette grâce imméritée qui m'est offerte en Jésus? Quelle est la réponse adéquate par la grâce justement merveilleuse de Dieu manifestée en Jésus-Christ? Les versets que nous allons méditer ce matin répondent à ces questions. En réalité, c'est la réponse de l'apôtre Paul que nous allons considérer ce matin. Elle se trouve, elle aussi, dans l'Épître aux Romains, au début du chapitre 12. Et je lis ce matin dans la version dite à la colombe. Romains chapitre 12, je vous invite à prendre ce texte avec moi. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pendant 11 chapitres, l'apôtre Paul a parlé doctrine et théologie. Pour simplifier, on pourrait dire qu'il a parlé de la théologie, des vérités, des actes de Dieu et des principes qui fondent la foi chrétienne, qui fondent la vie chrétienne. Et puis quand il arrive au chapitre 12, il passe à la pratique. Il passe aux exhortations. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que ce changement entre la théologie et la pratique s'opère de manière articulée, s'opère de manière connecté, pour employer un terme plus courant aujourd'hui, terme plus familier. Il n'y a pas d'un côté la théologie, la doctrine ou la théorie, si vous voulez, et de l'autre côté la pratique, la vie chrétienne avec une espèce de cloison étanche entre les deux. Mais c'est l'une et l'autre de ces réalités avec des passerelles, avec des vases communicants. Et cela, c'est le donc du verset premier, regardez. C'est le donc du verset premier qui nous le fait comprendre. Je vous exhorte Donc, dit l'apôtre Paul, et il signifie par là, il fait le lien entre tout ce qu'il vient de dire dans les 11 premiers chapitres de son épître aux Romains, cette partie doctrinale, théologie, théorique qui a précédé. Et puis, tout ce qu'il s'apprête à dire dans les chapitres qui suivent, dans cette partie, je dirais, exhortative, pratique. En réalité, l'apôtre Paul fonde ses exhortations sur l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus, ce qu'il vient d'exposer dans les textes qui précèdent. Et c'est la raison pour laquelle qu'il va continuer en ce sens. Il poursuit en disant, « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. » Ou, si vous préférez, « par les bontés de Dieu. » C'est parce que Dieu a agi dans son immense bonté que nous sommes appelés à vivre d'une certaine manière. Ce que Dieu a fait dans sa compassion, frères et sœurs, appelle une certaine, je dirais, réponse de notre part. Clairement, donc, l'apôtre Paul, pour lui, il n'y a pas de pratique sans théorie. Et je dirais, il a tout bâti là-dessus, sur la théologie, mais aussi sur la pratique, sur la connaissance de Dieu, sur la connaissance de son œuvre. Les deux sont interconnectés, liés l'une à l'autre. Et il faut toujours qu'il en soit ainsi. La pratique de la vie chrétienne ne doit pas avoir d'autres fondements, frères et sœurs. Pas d'autres fondements que ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Et c'est la raison pour laquelle nous allons retrouver ce même schéma. Hein, si vous lisez les épîtres de Paul et ses lettres, vous trouverez ce même schéma ici, présent dans l'épître aux Romains, et dans d'autres aussi, comme l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens aussi, par exemple. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici pour dire que l'on peut constater, je dirais, un glissement très important dans ce domaine depuis quelques décennies en particulier. Si la théologie ou la doctrine, autrement dit la Bible, a été le fondement de la pratique chrétienne depuis toujours, il se trouve qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ce n'est pas le seul fondement pour beaucoup de chrétiens. En effet, l'expérience et le ressenti, j'ai été ailleurs, j'ai vu ça, l'expérience et le ressenti font aujourd'hui partie, pour beaucoup de chrétiens, de ce qui est normatif pour leur foi, pour leur vie chrétienne. Si je l'ai expérimenté, si je l'ai vécu, si je l'ai vu, si je l'ai entendu, c'est que c'est vrai. Peu importe ce que la Bible dit ou en parle ou pas, peu importe que la Bible abonde dans ce sens ou pas, ce qui compte, au moins autant que l'Écriture, c'est l'expérience et le ressenti. Et c'est ainsi que beaucoup de subjectivité et de relativisme ont vu le jour ces dernières décennies dans beaucoup de milieux évangéliques. La norme de l'Écriture a été remplacée par celle de l'expérience et du ressenti. Il est facile d'imaginer que les changements de pratique que cela a entraînés. Et oui, cela n'a toujours pas été des bases solides théologiques. Mais souvent, ils ont pratiqué l'expérience et le ressenti. Ce que j'ai vu ailleurs, ce que j'ai entendu ailleurs, ne peut pas s'appliquer quelquefois dans mon Église. C'est la raison pour laquelle il est fondamental de bien comprendre ce qui se passe ici, dans notre passage, dans cette transition. De bien comprendre que la pensée de Dieu, c'est que la doctrine, la théologie, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, soit toujours le fondement de la pratique de notre vie chrétienne. Je referme la parenthèse. Après avoir dit pendant 11 chapitres les bontés de Dieu manifestées en Jésus-Christ, et je vous invite à lire ce livre aux Romains, hein, parce qu'il en dit des choses sur les bontés de Dieu, hein. Eh bien, l'apôtre va approprier quelque chose, c'est-à-dire vous et moi, il va nous donner une réponse. Il va nous donner la manière de répondre à ces exhortations. Et il va dire trois choses dans notre texte. Trois choses que nous allons prendre l'une après l'autre, mais qui sont liées les unes aux autres. Premièrement, il exhorte premièrement à offrir notre corps à Dieu, première partie de réponse. Puis deuxièmement, deuxième partie de réponse, il nous exhorte à ne pas se conformer, à ne pas nous conformer au siècle présent, au monde présent. Et troisièmement, troisième élément de réponse, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Avant de passer au premier point, j'aimerais juste souligner ici le ton que utilise l'apôtre Paul. Que fait-il ici? Il exhorte ses frères et sœurs dans la foi. Il ne les commande pas. Il ne leur dit pas, voilà ce que vous allez faire. Voilà ce que vous deviez faire. Non, il les exhorte. Et pourquoi fait-il cela? Sans doute parce que notre réponse à l'amour de Dieu doit toujours venir de notre cœur, toujours jaillir de notre volonté, toujours jaillir de notre désir d'obéir à Dieu, de notre reconnaissance et de notre amour pour Dieu, et jamais de la contrainte. Quand je considère les bontés de Dieu, quand je considère ses compassions pour moi, tout ce que Dieu a fait pour moi, alors même si je ne méritais rien. Rien d'autre. Rien moins que la consécration totale de ma vie n'est appropriée. Offrez vos corps en sacrifice. La première partie de notre réponse, donc aux bontés de Dieu, est de l'ordre sacrificiel, du sacrifice. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le vocabulaire utilisé ici est de l'ordre sacrificiel. Le mot sacrifice est utilisé, le mot culte est utilisé, et puis le verbe qui est utilisé, qui traduit en français par offrir, traduit un verbe grec qui veut dire littéralement présenter, comme présenter une offrande. Un sacrifice qui est présenté devant l'autel. Offrez vos corps en sacrifice. Si nous devons faire un peu de gymnastique cérébrale ce matin, pour imaginer ce monde sacrificiel, c'est le monde familier de l'apôtre Paul. Eh oui, des contemporains de Paul, où les sacrifices étaient quotidiens, pour ne pas dire omniprésents de la vie de l'époque, hein. Alors, que veut dire offrir? Ou présenter son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu? À quoi Paul fait-il référence? Que demande-t-il de faire au frère à qui il écrit? Si nous sommes à l'aise avec le fait d'offrir notre corps à Dieu, de notre cœur à Dieu, nous sommes moins à l'aise avec le fait d'offrir notre corps. Nous ne sommes pas trop habitués à ça, n'est-ce pas? Ça nous met un peu mal à l'aise d'offrir notre corps. Oui, nous avons des choses à faire, nous avons du temps, mais je ne veux pas l'offrir à mon Dieu. Le corps ici, sans doute, bien plus que l'enveloppe charnelle, ici dans notre texte. Bien plus que le physique opposé au spirituel. Sans doute, faut-il voir ici le corps comme, je dirais, un vecteur par lequel se manifeste la vie, toute la vie de la personne. Ainsi, offrir son corps, c'est offrir sa vie. Offrir son corps, c'est offrir sa vie tout entière au Seigneur. Oui, si nous venons que pour faire des choses qui nous intéressent, nous n'offrons pas notre corps à Dieu. Avant notre conversion, dit Paul, notre corps, nos membres étaient-ils dominés, dit-il, dominés par le péché. Notre corps obéissait, dit-il, au désir du péché. Notre corps était à la disposition du péché comme une arme, ou si vous préférez, comme un instrument pour l'injustice, pour l'impureté et pour le mal. Mais maintenant, maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, mettons notre corps tout entier à la disposition de la justice pour aboutir à une consécration. Je lis au chapitre 6, les versets 12, 13, 19. Que le péché ne règne pas dans vos membres, dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises ou à ses désirs. Ne mettez aucune part de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice. Mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Et offrez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Verset 19, je parle à la manière humaine ou à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, en effet, que vous avez mis votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de l'impureté et du mal pour aboutir au mal. Ainsi, maintenant, mettez votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de la justice pour aboutir à une consécration ou, si vous préférez, aboutir pour ouvrir à une sainteté. Frères et sœurs, le corps s'exprime. Le corps s'exprime. C'est par le corps que nous devons exprimer, manifester, je dirais, notre vie tout entière au Seigneur. Et après avoir mis notre corps au service du péché, Paul nous exhorte à le mettre au service du bien, au service de la justice, de l'obéissance à Dieu. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la sanctification à laquelle nous sommes appelés, le service auquel nous sommes appelés dans notre vie, ne sont jamais automatiques. Rien ne se fait sans nous, rien ne se fait à notre insu, et rien ne se fait contre notre gré dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que je suis une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus-Christ, que j'ai reçu une vie nouvelle, que tout va changer par enchantement. Que je vais marcher sans hôte en nouveauté de vie. Je dois le vouloir. Je dois le vouloir. Je dois y mettre tous mes efforts. Je dois y persévérer jour après jour. Oui, jour après jour, je dois mettre ma vie tout entière au service de Dieu. La lui présenter, la lui offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Nous avons l'habitude d'offrir des choses à Dieu. Hein, nous donnons de l'argent au moment de l'offrande, nous donnons de notre temps pour le servir. Mais en réalité, frères et sœurs, ce que Dieu veut par-dessus tout, ce que Dieu veut, c'est notre corps tout entier. Dieu ne veut rien d'autre que ça. Ce qu'il veut, c'est ce que nous sommes. C'est notre vie qu'il veut. L'apôtre ici n'exhorte pas ici à aller plus souvent à l'église. Paul n'exhorte pas à donner plus au moment de l'offrande. Paul n'exhorte pas à participer à plus de rencontres. Il exhorte à répondre à l'amour de Dieu de la seule manière acceptable aux yeux de Dieu, c'est-à-dire en lui donnant, en lui consacrant notre vie, ma vie tout entière. Dieu ne veut pas que nous nous apportions des sacrifices. Il veut que nous soyons le sacrifice. Dieu veut que nous soyons le sacrifice. Ce don de soi, ce sacrifice auquel nous sommes appelés ce matin, est qualifié de trois manières dans notre texte. De vivant, parce que oui, c'est vrai, c'est une vie mise à part à laquelle Dieu nous appelle, une vie consacrée à son service. De saint, parce que c'est une mise à part aussi, c'est ce que Dieu nous demande. D'agréable, parce qu'il est possible de rendre, oui, effectivement, un sacrifice désagréable à Dieu. C'est pour cela qu'il le dit. Un sacrifice qu'il n'agrée pas comme le sacrifice de Caïn. Et ce serait alors, pour notre part, si nous faisons comme Caïn, un sacrifice déraisonnable. Et je dis les choses ainsi parce que quand Paul parle ici de sacrifice de notre corps, de notre vie, il dit que c'est un culte raisonnable de notre part. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Le mot utilisé ici en grec est un mot que l'on traduit en français par le mot logique. Littéralement, c'est un culte logique de notre part, dit l'apôtre Paul. Un culte raisonnable, c'est un culte comme la réponse logique de notre part à l'amour de Dieu, à ses bontés manifestées en Jésus-Christ. Et cette réponse logique, cette réponse acceptable, ce ne sont pas des rites, ce ne sont pas des cérémonies, c'est notre vie au service de Dieu. Est-ce que ta vie est au service de ton Dieu ce matin? Le don de notre vie, c'est la seule réponse logique acceptable. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Malheureusement, nous avons considérablement réduit la notion du culte. Nous l'avons réduit à une heure ou deux le dimanche matin, éventuellement à quelques dizaines de minutes dans la semaine pour la lecture quotidienne de la Bible, ce que l'on appelle le culte personnel. Le culte auquel Dieu nous appelle, frères et sœurs, le culte auquel Dieu prend plaisir, ce ne sont pas les quelques chants que nous chantons le dimanche matin. Ils ont leur importance. Ce n'est pas la prédication que nous écoutons le dimanche matin, elle a son importance. Ce n'est pas la lecture de la Bible que nous faisons dans la semaine, c'est important de le faire. Ce n'est pas la prière que nous faisons monter vers Dieu non plus. Toutes ces choses, frères et sœurs, ça fait partie, elles font partie de notre culte, elles font partie de notre consécration à Dieu. Mais notre culte, ce n'est pas ça. Le culte auquel Dieu prend plaisir, auquel Dieu nous appelle, c'est avant tout notre vie, toute entière, offerte à son service. Certains sont assis entre deux chaises. Je suis dans le monde, je suis dans l'église. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Nous devons être au service, et pour être au service, il faut offrir tout son corps au service. C'est ce culte-là que Dieu, c'est à ce culte-là que Dieu nous appelle ce matin. Voilà le culte que Dieu attend de nous. Voilà le culte raisonnable de notre part. Voilà la réponse acceptable de notre part aux compassions de Dieu, dont nous sommes les bénéficiaires. Quoi que nous fassions, quoi que nous faisions, quoi que Dieu, nous sommes au bénéfice de sa grâce. Voilà le culte spirituel auquel Dieu prend plaisir. Et il faut donc impérativement, frères et sœurs, et si ce n'est pas le cas, que nous revoyons notre compréhension de ce que c'est qu'un culte. Toute la semaine, chaque jour, Dieu attend le culte de ma vie. Le culte de ma vie présenté à son service. Ne pensons pas que nous repartirons ce matin de ce lieu que nous avons fait ce qu'il fallait pour la semaine et que nous avons rendu un culte auquel Dieu s'attendait. C'est en partie vrai. Mais cela sera d'autant plus si c'est notre vie tout entière que nous offrons à Dieu en sacrifice. Le culte, c'est tous les jours, à la maison, à l'école, au travail, à l'église, ou ailleurs. Oui, et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, a une formule qui résume bien toutes ces choses quand il dit, et je reprends une phrase du pasteur Aldo, lorsque Paul dit « Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Voilà le culte auquel Dieu nous appelle. Après avoir exhorté du don de soi, comme seul culte raisonnable de notre part, Paul invite ses lecteurs, nous aussi, donc nous, à ne pas se conformer au siècle présent et au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est donc la deuxième partie de réponse, de la réponse aux bontés de Dieu. Alors, que veut dire se conformer? Que veut dire ne pas se conformer? Se conformer, c'est littéralement rentrer dans le moule. C'est faire avec. C'est suivre le mouvement. C'est faire le caméléon en prenant les couleurs de l'environnement dans lequel je me trouve où je suis. Oui, nous avons entendu ce matin que nous ne pouvons pas nous conformer au monde. Nous devons avoir un langage qui reflète bien la chrétienté, qui reflète bien le Christ. Quand l'apôtre Paul parle ici du monde, ici, il parle bien évidemment du monde en opposition à Dieu. Il parle du monde qui est sous la domination du prince de ce monde. Il parle des forces mauvaises qui sont à l'œuvre dans le monde. Il parle d'un monde qui est plongé dans le mal et dans les ténèbres. Il parle d'un monde dont les principes de vie sont opposés à la volonté de Dieu. Nous savons beaucoup de choses sont mauvaises dans notre monde. Il ne faut pas néanmoins tomber dans l'excès, tout diaboliser, tout rejeter en bloc. Tout n'est pas mauvais dans ce monde. Il nous faut donc discerner pour pouvoir faire la part des choses, discerner pour trouver un équilibre entre tout diaboliser, tout rejeter et entièrement se conformer. Cela nous rappelle que le chrétien n'est pas du monde, n'est-ce pas? Sa patrie est céleste. Il est néanmoins appelé à vivre dans le monde, appelé à y prendre sa place, à y vivre, comme tous les autres humains. Pourquoi? Pour briller comme la lumière de Christ. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il faut se rappeler ici que Jésus ne nous a jamais demandé d'agir ainsi, c'est-à-dire de sortir de le monde. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de se retirer du monde. Au contraire même, dans la prière dite sacerdotale, en Jean 17, que fait Jésus? Il prie le Père de ne pas les ôter du monde, mais au contraire, de les garder dans le monde, mais de les garder du malin, pour ne pas se conformer au siècle présent. Certes, notre patrie est céleste, mais notre place est ici-bas dans le monde, car pour l'heure, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons veiller, frères et sœurs, à ne pas nous laisser corrompre par ce qui est mauvais du monde. Nous devons veiller à ne pas nous conformer au monde mauvais qui nous entoure. C'est nous qui devons influencer le monde et pas l'inverse. C'est nous qui sommes et qui portons la lumière de Jésus-Christ. Une des difficultés pour chacun de nous, depuis que nous sommes nés, c'est vrai, nous avons appris à imiter. C'est comme cela que l'on apprend. C'est comme ça que l'apprentissage de la vie se fait. Nous imitons et nous sommes sous l'influence, que nous soyons conscients ou pas, sous l'influence à cause de notre péché, sous l'influence à cause du monde mauvais dans lequel nous vivons. C'est tout cela, frères et sœurs, qui fait qu'il est facile pour nous de nous conformer au monde présent sans même nous en rendre compte. Et il y a tant de choses d'influence dans ce monde qui prennent la place de Dieu. Alors, il ne s'agit pas, comme je dis tout à l'heure, de tout diaboliser, de jeter l'eau du bain avec le bébé. Mais il est important pour nous que nous prenions conscience des influences qui s'exercent sur nous. Et je pense ici en particulier, mais on pourrait allonger la liste à tous les médias, la télé, Internet, qui jour après jour nous influencent et façonnent notre mentalité, notre façon de comprendre les choses. Alors, bien sûr, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises. Et si nous nous conformons facilement depuis notre naissance physique à la naissance spirituelle, mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, les choses commencent à changer. Plutôt, devraient commencer à changer. Parce qu'il y a maintenant d'autres principes à l'œuvre en moi, d'autres principes de Dieu à l'œuvre en moi pour gouverner ma vie. Les principes mauvais du monde ne sont plus les seules possibilités qui s'offrent à moi. J'ai maintenant, frères et sœurs, les principes de Dieu dans sa parole, la vérité de sa parole. Et c'est fort de cette alternative que Dieu nous appelle ce matin à marcher en nouveauté de vie. Que Dieu nous appelle à marcher par l'Esprit. Et non en suivant les désirs de la chair, que Dieu nous appelle à ne pas nous conformer au monde présent. Ne pas se conformer au monde présent. C'est donc ne pas vivre en principe, suivant les principes mauvais du monde, de la sagesse du monde. Des principes qui s'opposent à ceux de Dieu. Et en même temps, sont diamétralement opposés. Ainsi, le monde dit que ceux qui vous aiment, méprisez-les, méprisez les autres. Mais Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras tes ennemis et tu prieras pour ceux qui te persécutent. Ainsi, le monde dit, la grandeur est dans l'accomplissement et la fin justifie toujours les moyens pour y parvenir. Et Dieu dit, la grandeur est dans le service et dans l'humilité. Et si le monde dit que le mensonge est acceptable quand il nous permet de sortir d'un mauvais pas, Dieu dit, tu ne mentiras point. Mais le monde dit qu'il n'y a pas de norme, chacun possède sa vérité. Mais Dieu dit, je suis la norme, je suis la vérité. Le monde dit, le bonheur, c'est de posséder. Et Dieu dit, le bonheur, c'est de me connaître. C'est de me connaître. Et le monde dit, toutes les relations sexuelles sont acceptables tant qu'il y a de l'amour. Mais Dieu dit, les relations sexuelles sont bonnes dans le cadre de la fidélité du mariage entre un homme et une femme. Et j'insiste, entre un homme et une femme. Si vous vivez en concubinage, posez-vous la question. Posez-vous la question. Posons-nous la question. Nous pourrions ainsi multiplier les exemples, frères et sœurs. Ces exemples qui suffisent à nous rappeler combien les principes qui gouvernent notre monde sont opposés à Dieu et qui nous font comprendre pourquoi Dieu nous appelle à ne pas nous conformer au monde présent. La troisième et dernière partie de notre, je vais aller vite, et dernière partie de notre réponse aux compassions de Dieu, c'est notre transformation. C'est notre transformation par le renouvellement de notre intelligence ou de notre pensée, si vous préférez. L'apôtre dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, de quelle transformation s'agit-il? Le verbe qui est utilisé, traduit en français par « soyez transformés » est le même verbe que l'on va retrouver dans l'épisode de la transfiguration de Jésus. Vous vous rappelez? C'est le verbe qui se traduit littéralement par « métamorphoser ». Ainsi, la transformation dont il est question ici, c'est bien plus qu'une transformation de façade. C'est une transformation en profondeur, une transformation qui change les choses en profondeur. Comment s'opère cette transformation? L'apôtre précise seulement par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire le renouvellement de notre pensée, le renouvellement de notre compréhension des choses, le renouvellement des principes qui gouvernent notre vie. Si la transformation ici s'opère par le renouvellement de l'intelligence, comment notre intelligence, notre pensée est-elle renouvelée? Paul ne donne pas de réponse dans ce passage. Du moins, je n'en ai pas trouvé dans ce passage. Par contre, avec le reste de l'écriture, nous pouvons dire que le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée s'opère de deux manières. De deux manières qui sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie, travaillant la main dans la main, je dirais, d'un côté l'action du Saint-Esprit et de l'autre côté la parole de Dieu. C'est leur action combinée qui renouvelle notre intelligence et qui va conduire notre transformation en profondeur. Frères et sœurs, si nous rentrons un peu plus dans l'articulation des choses, nous voyons que parce que nous sommes pécheurs, nous le restons, bien sûr, parce que nous vivons dans un monde qui est profondément marqué par le péché, notre intelligence, notre pensée est affectée. Elle est corrompue. Elle est déformée même, je dirais, d'une certaine manière. Et c'est ainsi nos choix de vie, les choix que nous faisons, si nous n'avons pas ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, sa parole, sa vérité, son esprit, eh bien, nos choix vont être influencés par le monde. Mais quand nous venons à Dieu, quand nous venons à Jésus, quand nous laissons l'Esprit Saint faire sa demeure en nous, quand nous acceptons et gardons sa parole dans notre cœur, alors, nous choisissons de remplacer l'erreur par le mensonge, par la vérité de Dieu, par sa parole, par l'illumination même du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous commençons à voir les choses autrement. Et nous commençons à les voir comme Dieu les voit. Nous commençons à comprendre véritablement qui est Dieu. Nous commençons à comprendre véritablement qui nous sommes vraiment. Nous commençons à comprendre véritablement le monde dans lequel nous vivons. Et nous comprenons ces choses. Nous adoptons le point de vue de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous adoptons les points de vue de Dieu, notre regard change, nos actions changent, notre vie est transformée. Le renouvellement de l'intelligence par l'action combinée de la parole et de l'Esprit Saint nous transforme et nous amène à marcher en nouveauté de vie d'une manière digne, nous amène à ne pas nous conformer, oui, à ne pas nous conformer au siècle présent. Non seulement nous marchons en nouveauté de vie, mais nous sommes aussi alors en mesure, comme dit Paul, de discerner la volonté de Dieu. Et cela nous amène à ne pas, comme je le disais, à ne pas nous conformer au siècle présent. L'Esprit de Dieu agit en nous. Et ce discernement de la volonté de Dieu va contribuer, lui aussi, à tout ce processus de renouvellement et de transformation dont nous venons de parler. Alors, quelle est notre part dans ce processus ce matin? Je le redis, rien ne se fait sans nous, frères et sœurs. Notre part, après avoir accepté Christ dans notre vie, c'est de nous nourrir de sa parole. C'est de la garder et d'y obéir. C'est de rester en communion avec Dieu par le biais de son esprit en nous. Et ainsi, nous pourrons répondre aux bontés de Dieu. Ainsi, nous pourrons nous offrir à Dieu. Ainsi, nous pourrons ne pas nous conformer au siècle présent. Et ainsi, nous serons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses pour les vivre à sa gloire. Amen.